La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, c'est une nouvelle semaine littéraire qui s'ouvre comme chaque lundi à 15h, direction le nord de l'Angleterre. Nous parlons jusqu'à jeudi des sœurs Brontë. Une fois n'est pas coutume, l'histoire que nous vous racontons cette semaine est une histoire collective, car c'est ensemble que les Brontë sont devenus une fratrie d'écrivains, auteurs de nombreux textes dont les deux romans principaux se nomment Jane Eyre et Léo de Hurlevent. Au-delà de la qualité propre de ces textes, ce sont les conditions de leur émergence, la fécondation collective des imaginaires de leurs auteurs qui font des écrits des Brontë une œuvre exceptionnelle. Car à l'origine de leur écriture, il y a tout simplement des jeux, preuve s'il en était qu'écrire c'est avant tout se laisser jouer, parfois jusqu'à l'excès, ce sera le cas pour les Brontë, nous en parlerons jeudi avec l'écrivain et critique Raymond Bellour. De cette fratrie émergent deux figures principales, Émilie et Charlotte. Nous nous intéresserons à cette dernière mercredi, ainsi qu'à son roman Jane Eyre, grâce à l'écrivaine Dominique Barberis, qui a consacré une préface à ce livre dans la collection Folio. Et puis demain, en toute logique, c'est sur le parcours d'Émilie que nous nous arrêterons à travers ce qui reste la grande œuvre de la famille, j'ai nommé Les Hauts de Hurlevent. Et aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, je reçois Dominique Jean, maître d'œuvre de l'édition Dans la Pléiade des écrits des Brontë et traducteur des deux phares de cette œuvre que sont Wuthering Heights, Léo de Hurlevent, et Jane Eyre. Avec lui, nous faisons connaissance avec la famille. Bienvenue à tous dans la compagnie des auteurs.
Ce qui me séduisait, c'était le caractère de ces quatre personnages, enfin les contradictions de ces quatre personnages, parce qu'ils sont tous les quatre artistes, donc... Mais simplement, ils le sont tous dans une direction un peu différente. Enfin, le frère, ça correspondrait plutôt à ce qu'on appelle couramment l'artiste maudit. Anne Brontë, ça correspondrait plutôt à ce qu'on peut appeler, disons, l'artisan. Et puis, Émilie Brontë, évidemment, ça rejoindrait plutôt l'image comme ça mythique de l'artiste inaccessible, l'artiste de génie. Et puis Charlotte Brontë, l'artiste reconnue officiellement. Ce sont quatre vies extrêmement passionnées, parce que justement, je crois qu'ils s'aimaient beaucoup, qu'il y a beaucoup d'amour enfin, qui circule entre ces quatre personnages. Ils essayaient de faire un, et ils n'y arrivaient pas. Quoi. Ils essayaient de sortir de l'enfance. Enfin, je crois que ce sont quatre personnages qui ont gardé un sens très très profond de l'enfance.
Bonjour Dominique Jean.
Bonjour Mathieu Garrigou-Lagrange.
C'était le cinéaste André Téchiné qui parlait des Brontë en 1979 à l'occasion de la présentation à Cannes de son film Les Sœurs Brontë. C'est un film que vous avez peut-être vraisemblablement vu.
Que j'ai vu, oui absolument.
Est-ce qu'il est fidèle à l'histoire ?
Mais oui, je pense qu'il a bien capté l'esprit de cette fratrie étrange avec effectivement la différence qu'il y a, qui est très forte. Malgré tout, entre chacun. Il y a un personnage qui manque dans cette fratrie, c'est le frère, qui a toujours été occulté et qui est pourtant sans doute le plus séminal, en tout cas pour ce qui est de lancement de ces jeux qui ensuite ont donné lieu à un certain nombre d'écrits, très nombreux écrits, et ensuite dont les sœurs ont eu beaucoup de mal à se détacher pour passer à leur œuvre propre.
Oui, de très nombreux écrits, parce que c'est vrai que, vous le dites d'ailleurs dans votre préface, et vous utilisez pour le dire une image marine, au fond, on a l'impression, quand on est un navigateur et qu'on voit les deux phares que sont Jane Eyre et Léo de Hurlevent, qu'on a fait le tour de l'œuvre des Brontë, mais c'est pas du tout ça. Il y a beaucoup plus de choses que ces deux grands romans-là.
Pas du tout, et effectivement, j'ai repris à l'occasion de cette émission, j'ai rouvert un certain nombre de ces textes.
On vous a fait travailler.
Et je me suis aperçu, mais c'est un plaisir, je me suis aperçu que c'était encore beaucoup plus important que ce dont je me souvenais. En 2 ou 3 ans, le frère a écrit 40 000 vers. Un peu hallucinant. Et ça a continué comme ça pendant... Enfin, lui s'est arrêté un peu plus tôt, il a sombré dans l'alcoolisme, etc. C'est une autre question. Mais ils ont travaillé comme des fous tant qu'ils avaient la possibilité de le faire.
Donc vous ne diriez pas que ces deux romans-là, Léo de Hurlevent et Jenner, sont tout de même au-dessus de si. Tous les autres textes? Si, quand même.
Absolument, absolument. Y a un troisième roman que je trouve, que je préfère, moi, au dernier de Charlotte, Villette, et qui est considéré comme supérieur à Jenner. Bon, c'est une question. Il y en a un autre, qui j'espère paraîtra bientôt, qui est Shirley, qui est cette fois beaucoup plus ancré dans la réalité anglaise, à l'époque des troubles ludites dans le nord de l'Angleterre, en 1811-1812. Donc, mais il n'en reste pas moins que Léo de Hurlevent et Jenner restent au sommet.
Mais alors, le plus beau des romans, finalement, des sœurs et du frère Brontë, on dit toujours les sœurs Brontë, mais il faudrait dire la fratrie Brontë, c'est leur roman à eux. D'ailleurs, Téchiné, son film, c'est pour raconter la vie des Brontë. Il faut dire que leurs relations sont particulièrement romanesques, hein, Dominique Jean.
Oui, enfin, qu'appelez-vous leur relation romanesque ?
Eh ben, les rapports qu'ils ont entre eux, on verra tout à l'heure comment ils ont éjecté un petit peu ce frère, Branwell, ça particulièrement, c'est romanesque. Le fait également, alors qu'ils n'y sont pas destinés, de devenir des jeunes filles qui vont changer la littérature anglaise, ça peut-être aussi, ça fait partie.
Oui.
En tout cas, c'est suffisamment romanesque pour que Téchiné en fasse un film.
Tout à fait. C'est un magnifique sujet. Bon, cela dit, je pense qu'il faut tenir compte aussi de tout ce que l'on a connu uniquement très très tard, à savoir justement tous ces travaux antérieurs à la création individuelle de chacun. Cette époque, effectivement, des ateliers d'écriture, enfin, c'est ce qu'on a appelé l'atelier d'écriture du presbytère de Haworth, c'est quelque chose qui a été trop longtemps complètement occulté.
Oui. On va écouter justement comment l'imagination est au pouvoir très jeune au sein de ces fameux ateliers d'écriture. Voici un extrait des Iliens de Charlotte Brontë, lu par Guillaume Gallienne.
Il y eut un long silence que Branwell finit par rompre, déclarant paresseusement « Je ne sais que faire ». Emily et Anne lui firent écho. Tabby dit « Ma fouée, vous me fait aller au lit ?» Branwell répondit « Tout plutôt que ça. » Je dis « Que tu es grincheux ce soir, Tabby. Imaginons que nous ayons chacun une île. » Branwell « Alors je choisirai l'île de Man. » Je dis « Et moi l'île de Wight. » Emily « Moi l'île d'Aran. » Anne « Et la mienne serait Guernsey. » Je repris, mon chef serait le duc de Wellington. Branwell, moi, Harris. Emily, moi, Walter Scott. Anne, moi, je prendrais Bentinck. Ici, notre conversation fut interrompue par le bruit lugubre à nos oreilles des 7 coups de la pendule et on nous somma de filer au lit.
Alors voilà, Dominique Jean, les jeux littéraires qui sont à la base de tout. On en parlera très largement jeudi avec Raymond Bellour, mais pour les auditeurs, sans doute faut-il rappeler dès maintenant qu'effectivement, c'est à l'origine de tous ces jeux littéraires. Ça se passe quand ils ont quel âge, les enfants Brontë ?
Quand ils ont 12-13 ans. Le père rapporte à son fils... sans doute un peu pour consoler ses enfants qui viennent de perdre en peu de temps leur mère et leurs 2 sœurs aînées. Et donc les 4 enfants sont au presbytère.
Parce que le père
les fait travailler, enfin s'occupe d'eux, contrairement à ce qu'on a dit, s'en occupe très bien. Mais ces enfants sont tout de même encore sous le poids de ils vivent leur deuil. Donc, quand le père rapporte, pour faire plaisir à ses enfants, quelques jeux, il y a une boîte de 12 petits soldats. Ces 12 petits soldats de bois, il les donne au garçon, forcément, Branwell. Et Branwell montre ça à ses sœurs et aussitôt elle s'identifie à un personnage. Et ces personnages, elles vont leur donner des rôles. Donc c'est là où Charlotte, qui a toujours été une grande admiratrice du duc de Wellington, dit « le mien sera le duc de Wellington ». Emily en prend un, je ne sais plus, enfin bon, peu importe.
Il y a de Bonaparte.
Il y a Bonaparte. Alors Branwell prend Bonaparte, c'était un rebelle Branwell, donc il prend Bonaparte. Et ils vont commencer à jouer, faire des jeux de rôle. Et ce n'est que un certain temps après, plusieurs mois après, qui vont décider de commencer à transcrire leurs jeux sur des petits carnets. En fait, ce sont des imitations d'un journal périodique qu'ils lisaient avec passion, le Blackwood's Magazine, et ils adaptent leur petite rubrique qu'ils rédigent dans ce Blackwood's Magazine tout à fait à l'imitation du magazine officiel.
Alors, on ne va pas en dire trop quand même là-dessus, parce que c'est le sujet de notre émission de jeudi.
À partir de là, ils vont commencer à... C'est pour ça qu'au début, ils parlent de plays. Il s'agit de pièces de théâtre qu'ils jouent entre eux avec les personnages. Et puis après ça, ils transcrivent.
Mais le jeu, la littérature qui en découle, ça ne vient tout de même pas de rien. Ça vient, vous l'avez dit, de ce père, Patrick Bronte, qui lui-même inventait des jeux de rôle pour vaincre la timidité de ses enfants.
Oui, c'est l'histoire du masque qu'il avait fait porter à ses enfants pour essayer effectivement de leur... Alors, ça peut être lié aussi tout ça à son désir d'essayer de... sur un plan psychologique, de les aider à surmonter le deuil. Parce que c'est même... Ils vivent dans ce presbytère ouvrant sur la lande avec les tombes devant, dont celle de la mère et des sœurs. Et c'est tout de même un univers un peu... je dirais pas glauque, mais un peu sinistre.
Il joue sur les tombes. Donc
il joue sur les tombes,
aussi
on n'a pas l'assurance, mais... Moi, je suis à peu près, je suis pas le seul, hein. Plusieurs personnes pensent qu'effectivement, il joue entre les tombes. Je ne sais pas, peut-être que jouer sur les tombes, vous savez, les tombes anglaises, c'est au ras du sol, hein. Ce sont pas des caveaux à la française. Il joue dans cet univers entouré de murs de granit, de dalles de granit, de pierres tombales.
Et donc le père donne des masques pour permettre aux enfants...
Je pense qu'une fois il a dû le faire, et on a retenu ça parce que ça a été rapporté dans la biographie de Gascon. Je ne pense pas qu'il ait fait ça systématiquement.
Oui, mais ça en dit quand même beaucoup sur le père, parce que il faut préciser ici qu'on a eu pendant très longtemps une assez mauvaise image de ce père pasteur, considéré comme rigoriste, victorien, égocentrique. Qu'est-ce qui est vrai là-dedans ?
Écoutez, je pense que c'est la dernière grosse biographie de Juliette Brock, hein. En 94, je crois, qui remet un peu les pendules à l'heure. Et en particulier, elle insiste sur, d'abord, l'importance de... on ne peut pas parler l'ascension sociale, mais un peu, du père, qui va jouer, je pense, un rôle très important dans le sentiment que les enfants auront ensuite qu'il faut absolument qu'ils évitent d'être déclassés. Ce sont pas des pauvres, mais des gens, finalement, qui sont protégés contre la pauvreté uniquement grâce à la position du père dans l'Église d'Angleterre. Là, il est logé, il a un salaire très médiocre, mais le jour où le père ne sera plus là, qu'est-ce qui reste à ses filles si elles ne veulent pas être... Alors, pas question pour elles de se retrouver. Quelles sont les professions pour les femmes à l'époque ?
Gouvernantes, justement.
Gouvernantes. Donc, elles vont essayer d'être gouvernantes. Elles en souffriront, surtout Charlotte, énormément. Émilie ne tiendra pas le coup plus de 6 mois. Anne est la seule qui aurait pu gagner un peu d'argent.
Voilà. Mais vous pensez que ça modifie beaucoup à la fois leur psychologie et leur littérature, cette peur du déclassement ?
Oui, je pense que c'est toujours présent dans les textes. La dimension économique est toujours, et la transmission de propriété, par exemple dans Wuthering Heights, mais il y a aussi le même souci de faire en sorte que on reconnaisse le mérite des femmes, parce que c'est en tant que femme qu'elles se sentent complètement marginalisées, exclues. Oui. La femme n'a pas de place à l'époque. Qu'est-ce qui lui reste ? À se marier ou à être gouvernante ?
Donc c'est une intégration de la domination un petit peu sous toutes ses formes économiques et aussi la domination exercée sur les femmes.
Absolument. Absolument. Alors, bon, aujourd'hui, on a tendance à dire, est-ce que Shirley, par exemple, est un des premiers romans, une espèce de roman proto-féministe, pré-féministe ? Bon, il est simplement, c'est simplement un roman qui pose de façon très claire la situation des femmes, et alors de façon parodique, etc., puisque l'héroïne est une héritière, et que l'héritière décide de, comme elle est l'équivalent de Lord of the Manor, hein, donc l'espèce de propriétaire principal du coin, elle décide tout simplement de toujours adopter un rôle d'homme, c'est-à-dire l'héroïne, hein, le personnage. Mais ça en dit long sur la façon dont ils ont besoin, d'autant plus qu'ils sont tout de même très déçus par l'évolution de la carrière de Branwell. Le frère, pas le frère aîné, c'est le deuxième dans la fratrie, mais le frère aurait pu être celui qui leur assurerait à moyen terme une certaine garantie économique.
Oui, parce que c'est lui qui est au départ le plus talentueux, on va y revenir.
Ben, qui est très talentueux, oui. Très précoce et très talentueux.
Je voudrais qu'on dise un mot sur le mythe Brontë, parce que aujourd'hui, ce nom évoque, et j'imagine en Angleterre encore beaucoup plus que chez nous, évoque tout un univers. Est-ce que vous pourriez essayer de définir ce que sont les racines de ce mythe Brontë, Dominique Jean ?
Alors là, c'est une. Il y a des livres entiers qui sont consacrés à cette question. Je ne sais pas. Je pense que. Il y a essentiellement, je pense, le fait que on a donné de Charlotte, Elizabeth Gaskell, dont la biographie est par ailleurs extrêmement sérieuse et intéressante, on a donné de Charlotte l'image d'une jeune femme qui s'est sacrifiée, qui a sacrifié sa vie pour s'occuper de son vieux père, contrairement à Anne et à Emily.
Donc il faut dire qu'Elizabeth Gaskell était une amie de Charlotte Brontë, enfin la connaissait en tous les cas.
Elle l'avait rencontrée, elle était romancière, elle la connaissait, elle s'appréciait beaucoup. Et le père a demandé à Elizabeth Gaskell de rédiger cette biographie, juste après la mort de sa fille, pour éviter que ne commence à circuler des racontars, qu'on donne une image tout à fait fausse de ce qu'avait été, du moins selon lui, la vie de sa fille.
Alors c'est amusant parce que c'est lui qui demande de faire la biographie et c'est lui qui se retrouve le personnage le plus caricaturé, celui qui est finalement le plus décrié.
Et il n'en a pas voulu d'ailleurs à Gascon. Il y a des anecdotes comme, je ne sais pas quoi, les rages dans lesquelles il se mettait et il jetait au feu le tapis du salon. Enfin, tout ça, c'est absolument inventé.
Alors, on va parler un petit peu de ses enfants les uns après les autres. Alors, il y a Anne. Anne n'est pas forcément la plus célèbre. C'est peut-être celle qui est le moins affectée par l'expérience des jeux dont vous avez commencé à nous parler, parce que ces jeux, à force d'y rentrer trop profondément, avaient tendance à leur monter un petit peu à la tête, à tel point que la réalité se mêlait à la fiction et qu'on avait du mal parfois dans cette famille à faire la différence entre les deux. Mais Anne, finalement, c'est peut-être celle qui est la plus saine d'une certaine manière par rapport à cet univers fictif.
Bon, elle a participé au jeu. Très rapidement, les deux plus jeunes, Émilie et Anne, se sont séparées des aînés, mais elles ont continué leur propre jeu. C'est le monde de Gondal et le monde de le double d'Angria de Gaaldin. Le problème, c'est que on pense qu'il y a eu aussi beaucoup de choses qui ont été écrites, mais il n'est resté de ça que les textes, les poèmes. Donc, il y a toute une partie qui a été détruite, sans doute à l'initiative d'Émilie, mais je pense qu'Anne a été impliquée aussi dans ces jeux de Gondal, cela dit, peut-être effectivement moins profondément.
Donc elle va écrire deux romans, je crois.
Oui, enfin, un très court, que moi je trouve excellent, mais qui est pas très important.
C'est le locataire de Whitfield.
Non, ça c'est Agnès Gray. Agnès Gray qui est court, qui avait d'ailleurs été mis comme troisième. Vous savez, c'est l'époque où on faisait la première édition en trois volumes, pour des raisons sordides. Parce que ça permettait d'assurer une vente, l'achat plutôt, par les bibliothèques de prêt. Puisque pour emprunter un livre, vous empruntiez seulement deux volumes. Naturellement, quand vous avez emprunté deux volumes, vous voulez savoir la suite. Mm-hmm. Donc, vous êtes obligé soit de prendre un deuxième, vous êtes obligé de prendre un deuxième abonnement si vous voulez avoir les trois.
D'accord. Bon.
ça a eu un rôle déterminant pour les éditeurs, pressaient les auteurs à écrire suffisamment pour que ça fasse trois volumes. Ils jouaient beaucoup sur les marges, etc. Absolument. Bon.
Mais pourtant, Agnès Gray, c'est quand même celui qui est le plus connu des deux, non?
Non, pas du tout.
Pas du tout.
Vous avez raison, c'est le plus connu des Français jusqu'à une date relativement récente. Même en Angleterre, la locataire, enfin, The Tenant of Wildfell Hall, a été longtemps un peu oubliée. Je vous dirai pourquoi si ça vous intéresse, mais Agnès Gray, dans un premier temps, était le troisième volume de l'édition de Wuthering Heights, qui était en deux volumes, et le troisième, c'était une espèce de supercherie d'éditeur.
D'accord, mais qu'est-ce qu'on retiendrait finalement de Anne, alors? Et de son travail? Qu'est-ce que vous retiendriez?
Alors, ces poèmes sont pas très nombreux, mais sont de bien meilleure qualité que ceux de Charlotte. Enfin, Charlotte n'était pas vraiment poète. Elle utilisait beaucoup de chevilles tout à fait détestables dans ses poèmes. Elle n'avait pas un grand sens du rythme, contrairement à son frère Branwell. Et la poésie, dans la poésie, c'est Émilie qui incontestablement est la plus remarquable. Mais chez Anne, bien qu'elle soit assez traditionnelle, un peu poetic diction du 18e, ça reste tout de même, elle a un grand sens de la musicalité, et c'est des choses très simples, il n'y a pas d'ambition démesurée.
Voilà pour Anne, je vous propose maintenant d'en venir à Branwell.
Branwell est certainement quelqu'un qui a raté sa vie, enfin je veux dire au sens où on peut imaginer peu de choses aussi tristes que les deux années qu'il a passées comme chef de gare dans cette petite gare de Ludendenfoot. Les textes qu'il écrit, les poèmes qu'il écrit à cette époque sont une tristesse. Il y a un carnet de notes où il y a cinq ou six figures de pendus au milieu de tas de petites figurations qui rappellent les dessins les plus terribles de Baudelaire, par exemple. Et donc Branwell est effectivement une sorte de raté romantique dont, d'une certaine façon, rien n'est resté. Si vous prenez la famille James, par exemple, Alice est la fille liquidée de l'histoire. Elle avait des dons d'écrivain, elle n'a jamais pu écrire, c'est l'hystérique parfaite pour Freud. Enfin, c'est quelqu'un de dévoré en tant que femme dans son impuissance à l'intérieur d'une structure masculine. Chez les Brontë, on assiste à un renversement assez extraordinaire, dont le petit recueil des poèmes publiés par les trois sœurs semble comme l'illustration. On y réfléchit peu à cette affaire, mais ça a dû être pour les trois sœurs une violence extraordinaire qu'elles se sont faites à elles-mêmes et qu'elles ont faites à Branwell, de l'exclure, alors qu'il était l'initiateur de tout le jeu au départ, de l'exclure de cette publication.
Une archive de Raymond Bellour qui sera notre invité de jeudi ici à la Compagnie des auteurs. Donc Branwell, Dominique Jean, c'est en quelque sorte une victime de ses sœurs, c'est le liquidé de l'histoire.
Non, pour ce qui est effectivement de son exclusion, je pense que Bellour parle de l'exclusion de la publication du recueil de poèmes. Mmh. Je pense que Charlotte avait eu déjà tellement de mal à convaincre sa sœur Émilie de laisser publier ses poèmes qu'elle ne se sentait pas... Et déjà à ce moment-là, elle commençait à avoir des relations plus complexes avec son frère favori, son frère adoré. Branwell n'était pas là non plus. À ce moment, il n'était pas au presbytère à ce moment-là. Donc c'est assez normal qu'il n'ait pas été... inclus dans la... D'autre part, ces poèmes n'auraient pas trouvé véritablement leur place dans ce qu'il avait, dans ce qu'elle voulait faire.
Mais ça a contribué tout de même à le détruire un peu plus. Parce que finalement, l'histoire de Branwell, c'est quoi ? C'est l'enfant chéri, c'est le génie, et qui finalement s'avère moins talentueux qu'on l'aurait cru et moins talentueux que ses sœurs. C'est ça l'histoire de Branwell ?
Un peu. Il a échoué à plusieurs reprises. D'abord en tant que peintre, puisqu'il a pendant un certain temps commencé à peindre et fait des portraits de il a eu quelques commandes de la bourgeoisie locale.
Il a fait un portrait notamment de la famille aussi,
voilà,
qui est très célèbre,
peut-être
le plus connu de ses tableaux.
Voilà. Bon, on peut pas dire que ce soit un grand peintre. Déjà par rapport à Charlotte et à Émilie, elle dessinait beaucoup mieux que lui. Bon, après ça, il a quitté le presbytère, il a pris cet emploi parce qu'il fallait bien gagner sa vie, comme employé dans une société. Alors, il a trouvé une petite compensation, c'est que là où il était très tout près de Halifax, où il y avait une vie intellectuelle et artistique réelle. Donc, il a tout de même, à ce moment-là, beaucoup écrit, beaucoup composé.
Bon. Mais quand même, il y a cette phrase de Charlotte à l'éditeur qui dit « Il n'y a pas d'homme dans la famille Brontë ». Donc, il y a quand même quelque chose qu'on pourrait analyser de manière presque psychanalytique, Dominique Jean, dans ces trois femmes qui disent à l'éditeur « Dans la famille, il n'y a pas d'homme ». D'ailleurs, elles étaient publiées sous un nom d'homme.
Oui, elles ont toujours été publiées sous un pseudonyme indéfinissable du point de vue genre, hein, Cara, Ellis, Acton. Il n'y a pas d'homme dans la famille. Oui, effectivement, il y avait peut-être une façon d'exclure aussi bien le père dont elle pensait peut-être à un moment qu'elles auraient voulu s'affranchir un peu de lui, je ne sais pas, et Branwell qui les avait terriblement déçus. Enfin, qui avait surtout déçu Charlotte.
Donc il y a Anne, on en a parlé, il y a Branwell, on vient d'en parler, il y a Émilie, c'est sans doute celle qui reste le plus. Est-ce que c'est la grande artiste de la famille, Dominique Jean ?
C'est l'auteur d'un roman prodigieux.
Léo de Hurlevent,
voilà. Non, ça reste effectivement... parce que, tout à l'heure, vous parliez d'Anne. La locataire de Wild Fowl, qui est un roman intéressant, s'effondre totalement en raison de choix énonciatifs absurdes. Totalement absurdes.
C'est-à-dire
Les 500 ou 600 pages du roman sont présentées comme une lettre... y compris à l'intérieur de ce roman, un journal intime rapporté, etc., etc., comme des lettres envoyées par un ami à un ami par quelqu'un à qui il dit « Tu m'as demandé des nouvelles de mon mariage, hein, comment je m'étais marié, ben voilà, je vais te raconter. » Et hop, il raconte pendant 500 pages. C'est... Alors que dans Les Hauts d'Hurlevent, vous avez une maîtrise de la technique narrative qui est absolument somptueuse.
Et comment vous expliquez que Émilie arrive à passer des jeux d'enfants, certes sophistiqués, à une maîtrise telle que Les Hauts d'Hurlevent vont devenir quand même un des socles de la littérature anglaise?
Je pense que vous allez un peu loin, parce que beaucoup vous diraient que c'est un roman qui n'est pas aussi merveilleux que ça. Nous le trouvons absolument splendide. Il marquait une rupture par rapport à ce qui se faisait à ce moment-là. Il nous entraînait dans un univers inquiétant, avec des personnages troublants. Mais en fait, c'est quoi? C'est une histoire de d'amour fou et de vengeance, d'une cruauté absolue. Mais c'est tellement bien raconté, avec des changements de point de vue, des jeux sur des narrateurs auxquels on ne peut pas se fier. Que ce soit Lockwood, le malheureux qui se croit romantique et qui cherche la solitude, et dès qu'il est dans la solitude, il est absolument perdu. Ou que ce soit la bonne, Nelly Dean, enfin la bonne, la gouvernante, qui est assez perverse. C'est assez génial.
On va continuer de parler de tout ça avec vous, Dominique Jean.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
On continue d'en parler, mais pour l'heure, c'est le moment de retrouver notre chronique en compagnie des revues avec aujourd'hui Pierre Cros du réseau social Babelio. Bonjour Pierre.
Bonjour Mathieu, bonjour Dominique.
Vous voulez nous parler, sans doute inspiré par Téchiné, qui ouvrait cette émission, de cinéma et littérature.
Oui, je vais vous parler d'une étude réalisée par l'équipe de Babelio il y a quelques jours. C'est une grande étude qu'on a réalisée auprès de nos membres pour savoir quel rapport les lecteurs, les grands lecteurs, même entretiennent-ils avec le cinéma, avec les films adaptés de leurs romans favoris. Il y a 2262 membres qui ont répondu à nos questions au total.
Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quels enseignements peut-on tirer de cette étude?
Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on entend souvent que les films tirés de romans sont médiocres ou ratés. Alors, le premier élément intéressant qui ressort de notre étude, c'est que la très grande majorité des lecteurs interrogés considèrent tout de même que les adaptations amènent, quoi qu'il en soit, les enfants, par exemple, à la lecture. Ils n'ont pas forcément un avis totalement négatif sur les adaptations. Un autre enseignement qui va aussi un peu dans ce sens, c'est que 90% des lecteurs sont allés voir un film après la lecture d'un livre qui a été adapté. On va aller même aller plus loin. Plus d'un tiers des lecteurs vont voir les adaptations avec enthousiasme, même s'ils peuvent être déçus par la suite, même s'ils savent qu'ils ne vont pas forcément retrouver tout ce qu'ils ont aimé dans le roman, ils y vont quand même avec un certain enthousiasme. Alors les lecteurs préfèrent évidemment lire le livre avant de voir son adaptation au cinéma, mais 70% des lecteurs interrogés disent tout de même avoir lu un livre après avoir apprécié le film adapté.
C'est marrant ce que ça dit quand même de la primauté, au moins dans l'imaginaire, de l'écrit sur l'image. On pense souvent qu'un best-seller va faire un succès au cinéma. Pierre, est-ce que c'est le cas?
Alors malheureusement non, ce serait trop facile. Alors déjà, il ressort de notre étude que les lecteurs d'un livre ne sont pas toujours au courant que ce dernier a été ou va être adapté. Parfois le titre du livre n'est pas celui du roman, l'affiche ne reprend pas toujours les codes de la couverture du livre. D'ailleurs, les distributeurs eux-mêmes ne cherchent pas non plus toujours à s'adresser au seul lecteur du livre, qui risque parfois d'être déçu, mais en fait ils s'adressent souvent aux autres spectateurs, avec le risque de se priver d'une base potentielle. On a un exemple, seuls 19% des lecteurs de Babelio, donc plutôt au fait tout de même de l'actualité littéraire, savaient que la BD Paulina de Bastien Vivès, qui a été un grand succès en librairie, 19% seulement savaient qu'il avait été adapté au cinéma dans un film qui est sorti donc en novembre 2016. Alors ceci étant dit, quand l'adaptation est fidèle, plutôt réussie, les lecteurs forment une communauté d'ambassadeurs possibles du film, prêts à faire fonctionner le bouche-à-oreille.
Alors on peut se demander s'il y a des genres qui se prêtent plus que d'autres à l'adaptation au cinéma.
Oui, il semble que le polar, les romans historiques, mais aussi et surtout les littératures de l'imaginaire, comme la fantastique ou la science-fiction, sont les genres les plus propices à l'adaptation. Cela se voit d'ailleurs au box-office. Les films de super-héros, Harry Potter, Hunger Games ou encore Le Seigneur des Anneaux, ce sont d'abord des comics et des romans, et donc de gros succès de cinéma.
Vous avez demandé également aux membres de Babelio s'il y avait des romans qu'ils aimeraient voir adaptés au cinéma. Que vous ont-ils répondu?
Alors, je vais vous citer trois livres. Dans le trio de tête des lecteurs, en tout cas, on retrouve trois romans, évidemment très populaires auprès des lecteurs. La passe miroir, tome 1, Les fiancés de l'hiver, de Christelle Dabos. L'amie prodigieuse, d'Elena Ferrante. Et enfin, L'assassin royal, de Robin Hobb, soit deux romans fantastiques et un roman semi-autobiographique d'une mystérieuse auteure italienne qui connaît un énorme succès en France.
Eh bien, merci. Si on veut en savoir plus, cette étude se trouve
en ligne
sur Babelio.
Vous pouvez aller sur Babelio et vous trouverez l'étude, toutes les informations, tous les chiffres.
Et voilà. À bientôt, Pierre. Deuxième partie de cette compagnie des auteurs consacrée à la famille Brontë. Dominique Jean est avec nous et avec lui, nous avons déjà parlé de Branwell et d'Émilie, nous en reparlerons sans doute, mais intéressons-nous à présent à Charlotte.
Mon cher monsieur, ma pauvre sœur Anne a enfin tranquillement rejoint sa demeure. Elle est morte lundi. Presque jusqu'à son dernier souffle, elle a dit qu'elle était heureuse. Et elle a remercié Dieu que la mort soit là et si douce. Je ne pensais pas que cela arriverait si tôt. Je vous écris ce soir parce que j'en ai envie, sans, je l'espère, vous attrister. Vous avez eu la bonté de vous intéresser à mes malheurs et j'ai comme le devoir de vous informer de la façon dont je les supporte. Voici donc, ma sœur est morte heureuse. Rien de sombre, sauf l'ombre inévitable de la mort qui a obscurci sa dernière heure. Le docteur a dit qu'il n'avait jamais vu semblable lit de mort et que c'était la preuve d'un esprit hors du commun. Anne en avait assez de la vie. Dans sa 28e année, elle l'a déposée comme un fardeau. Je ne sais pas s'il est plus triste de penser à cela qu'à Émilie détournant à contre-cœur ses yeux mourants de la lumière du soleil. Si je n'avais jamais cru à une vie future, le destin de mes sœurs m'en assurerait. Il doit y avoir un ciel où c'est à désespérer, car la vie semble amère, brève et vide.
Un extrait donc d'une lettre de Charlotte Brontë lue par Guillaume Gallienne, où l'on comprend que la vie de Charlotte a été, peut-être encore plus que celle de ses sœurs qu'elle a vu disparaître, eh bien marquée par les deuils, Dominique Jean.
Oui, profondément marquée par le deuil, et en particulier, là, vous mentionnez le dernier deuil qu'elle ait connu, mais il ne faut pas oublier que quelques mois avant, pas dire exactement quatre, Émilie mourait, et trois mois avant, Branwell mourait.
Oui, alors, ils se passent l'un à l'autre la tuberculose. Il faut dire que d'abord et avant cela, deux enfants étaient déjà morts au pensionnat, où avaient été placés tous les enfants. Du coup, le père rapatrie ceux qui ne sont pas morts. Et la tuberculose frappe de nouveau Branwell, qui va transmettre aux autres enfants cette maladie.
Branwell, on est moins sûr. On pense qu'il est mort tout simplement d'épuisement, d'alcoolisme. On parle de marasme.
Il était quand même très jeune.
Oui, mais il s'est autodétruit à force de boire pour se remettre de ses peines de cœur.
De ses insuccès aussi.
De ses peines de cœur.
Oui, mais c'est pas le fait de ne pas être publié, de ne pas être un grand peintre.
Non, je ne pense pas. Mais bon, c'est vrai que quand il a compris qu'il ne pourrait pas épouser la personne qu'il espérait épouser, parce qu'elle avait aussi, il faut bien le dire, elle avait de l'argent, et il voyait une possibilité pour lui de pouvoir enfin se livrer pleinement à son œuvre.
Et qui était la maîtresse de maison dans la famille où il était.
Absolument. Les Robinson. ça a été pour lui absolument dramatique. Je pense pas que vraiment il a eu le sentiment d'un échec. Il continuait à écrire beaucoup, même si son dernier texte et ceux qui sont là se reposent n'est pas d'un enthousiasme fou. Et à la fin, effectivement, il écrit des poèmes qui sont totalement lugubre, et il dit lui-même qu'il a gâché sa vie, qu'il n'a rien fait de sa vie quelques semaines avant de mourir.
On voit bien que c'est Branwell quand même qui vous intéresse le plus, peut-être parce qu'il est un peu dans l'ombre. Qu'est-ce qu'il a apporté à Charlotte, Émilie et Anne?
Alors, bon, c'est lui certainement qui a été un peu le déclencheur de la passion pour l'écriture. De ces, ce qu'ils ont appelé scribble mania, une espèce de manie d'écrire tout le temps n'importe quoi sur des coins de table, etc. Enfin, sur des coins de table, c'est vraiment. Mais je pense qu'il était beaucoup plus, non, c'est excessif de dire beaucoup plus, il avait beaucoup plus lu que Charlotte, même si Charlotte avait énormément lu. Il avait une formation peut-être plus solide que Charlotte.
Il était allé, lui, à l'université, car il avait eu la chance d'y aller, puisque c'était...
Pensez-vous.
C'était un homme, non?
Pensez-vous, non. C'est son père qui a s'est totalement occupé de son instruction, qui lui a appris le latin, le grec, au point que Branwell a proposé des traductions des odes d'Horace, qui sont apparemment de bonne qualité, puisqu'il les a soumis au grand poète de l'époque, Coleridge, qui, Hartley Coleridge, pas le grand Coleridge, le fils du grand Coleridge, et qui a trouvé que ces textes étaient intéressants. Il les a pas publiés, mais il aurait très bien pu.
Alors, revenons donc à Charlotte, dont on avait prévu de parler. À Charlotte et à Jane Eyre, donc son grand roman. On peut dire que comme Branwell, elle a très tôt envie de devenir célèbre. Ça les réunit tous les
absolument,
deux.
Absolument, absolument. On ne sait pas si c'est après que Branwell ait écrit à Coleridge que il avait écrit aussi à plein d'autres personne susceptible de lui donner la possibilité d'être publié ou d'écrire, surtout d'écrire dans le fameux Blackwood's Magazine. Mais peu de temps après la lettre de Branwell à Coleridge, Charlotte a écrit, elle aussi, à Coleridge. Elle a envoyé un début de roman, demandant ce qu'on en pensait, et elle n'a pas été encouragée à poursuivre. Bon, après ça, il y a eu l'épisode de la publication du recueil de 1845, si je sais plus, de poèmes, qui l'a détourné un petit peu de la rédaction, et ensuite elle a écrit, enfin de la rédaction en prose, elle a écrit The Professor, qui a été envoyé à 8 ou 9 éditeurs, qui a toujours été refusé, et qui, ça a été le coup de le miracle qui lui a valu une lettre de celui qui allait devenir son éditeur, qui lui a dit: bon, il y a des qualités, je ne peux pas publier ça, ça n'est pas suffisamment abouti, mais si vous m'envoyez quelque chose, enfin en gros, bon, et c'est là où elle a envoyé Jane Eyre. Et Jane Eyre a absolument enthousiasmé l'éditeur, le conseiller littéraire. Et ça a été publié avec un succès fou.
Oui.
Un succès fou. Malgré des critiques quelquefois assez sévères.
Alors, il y a marqué sous ce roman une autobiographie. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que c'est une autobiographie
C'est un récit à la première personne, et c'est l'éditeur qui a demandé à mettre cette sous-titre.
Donc ça ne signifie pas...
Non. Elle y a mis... Mais Charlotte, comme la plupart des écrivains, mais peut-être plus que d'autres, met énormément d'elle dans ses textes, qu'elle transfigure complètement. Mais alors, ça a donné lieu d'ailleurs à tellement de recherches et de travaux un petit peu fastidieux, où on vous dit tel personnage, etc., il est inspiré par... Mais dans le deuxième roman publié de Charlotte Shirley, elle fait des portraits extrêmement caricaturaux d'un certain nombre des curates, vous savez, ces espèces de vicaires, enfin le terme exact, c'est suffragants, pasteurs suffragants, ceux qui assistaient le pasteur dans une église. Et ces portraits sont totalement, tellement caricaturaux qu'elle se dit, mais bon. Et en fait, quand elle a vu que les gens se reconnaissaient dedans, mais ne lui en voulaient pas, elle était ravie.
Bon. Mais elle aurait pu faire un portrait.
Dans Jenner, ce qui est peut-être pas autobiographique, mais quand même très lié, c'est le pensionnat au début. L'institution charitable pour élever les filles de pasteurs.
Oui, parce qu'elles ont été en effet
c'est là où les deux où elles ont toutes été.
Et y compris en Belgique.
Alors ça, en Belgique, c'est autre chose.
Expliquez-nous.
Belgique, c'est beaucoup plus tard. Elle va apprendre, enfin améliorer son français avec Émilie et son allemand aussi. Avec une perspective, là aussi, très économique, d'ouvrir une école, d'ouvrir un cours. Elle va tomber amoureuse, il n'y a pas d'autre mot, de celui qui est son professeur, Hégé, enfin H-E-G-E-R, je ne sais pas comment on prononce, c'est à mon avis Hégé. Et il va avoir une influence déterminante sur son écriture, sur la qualité de son travail. Et c'est après, au retour, qu'elle écrira The Professor, et qu'elle sortira de ces espèces de petits récits courts avec des héroïnes qui sont toujours qui fondent devant des séducteurs absolument byroniens, tout à fait scandaleux, et qu'elle essaiera de faire quelque chose qui la rapproche un petit peu du monde réel.
Alors il y a les romans et puis il y a aussi chez les Brontë la poésie. Voici un extrait d'un poème d'Émilie, cette fois par Elsa Le Poivre.
Le vent, je l'entends qui soupire, dans le ton le plus triste d'automne. Les feuilles flétries au sol gisent, aussi fournies que les fleurs du printemps. Cette nuit noire m'a persuadée d'aventurer mes pas au loin. D'anciens sentiments sur moi fondent, tels des vautours en cercle sur leur proie. Tendres, ils furent jadis, et chéris, mais froids et sans joie à présent. Je voudrais tant que leur ombre tenace eût péri, quand leur lumière quitta mon front. C'est comme la vieillesse qui feint, une souplesse d'enfant, mon âme gauchie, durcie, qui se plie à leur sauvage fantaisie. Avec les plaisirs passés, pourtant je pourrais du malheur passé acheter l'oubli, afin que par la mort de mes plus chers trésors, mes plus mortels tourments meurent aussi.
C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Nous parlons des Brontë avec Dominique Jean. Que retenez-vous de ce poème, Dominique Jean ?
Écoutez, je ne suis pas un fanatique de la poésie d'Émilie.
Ah, on a très mal choisi alors.
Oui, vous avez... Non, vous avez bien fait.
Vous préférez la poésie de Branwell, qui décidément est votre préférée.
Non, non. Mais le problème, c'est malgré la qualité des traductions de Pierre Léris, de Robert Davreux pour la Pléiade, ou en dehors de la Pléiade de Claire Malroux récemment, c'est tout de même une poésie. Il faudrait avoir le texte anglais à côté, et il y a une musicalité telle que si on reste du côté du contenu.
Donc c'est la traduction qui vous gêne, c'est pas tellement le poème en
lui-même. Oui, absolument, absolument. C'est vrai que les soucis, qu'est-ce qu'il faut dire, mystiques, religieux, d'Émilie, c'est pas exactement ma tasse de thé.
Oui. Pourquoi les soucis mystiques et religieux ?
Parce que c'est une poésie qui est tout de même tournée essentiellement vers une réflexion sur le sujet dans son environnement et à quoi bon la vie. Une interrogation, toujours. Mmh. Bon.
Mais quand même, les poèmes chez les Brontë, c'est un marchepied vers le roman. Comment se fait,
c'est vrai,
le passage d'un style à l'autre ?
Comment se fait le passage ? Je pense qu'il s'est fait pour des raisons, j'allais dire, un peu économiques. Le petit recueil de 1846 s'est vendu à 2 exemplaires.
C'est pas beaucoup, non ?
Pas beaucoup. Et elles ont décidé qu'elles ne pourraient pas... Charlotte le dit d'ailleurs. J'ai compris que je ne pourrais pas gagner ma vie en écrivant de la poésie. Paradoxalement, les peu de poèmes, les quelques poèmes que Branwell a publiés ont eu certainement plus 19 en tout, dont certains recyclés dans deux périodiques différents, ont eu plus de lecteurs au départ que les poèmes de Emily, Charlotte et Anne. Il faut dire aussi que Charlotte n'avait pas véritablement fait la part belle à Émilie ou à Anne, occupant tout de même plus de la moitié du recueil, avec sa poésie narrative. Le songe de la femme de Pilate, par exemple, est tout de même quelque chose qui pourrait amener des critiques à se demander pourquoi elle s'est crue poète.
Donc pour vous, c'est quand même le roman qui compte chez les Brontë, et c'est par le roman qu'elles ont innové.
Oui, d'abord, il n'y a pas d'innovation sur le plan poétique chez Émilie. La simplicité de la langue, si. Mais enfin, la simplicité de la langue, on la trouve déjà chez Wordsworth 30 ans avant, hein. 50 ans avant même. Dans le roman, c'est le type de sujet qu'elles abordent et des sentiments qu'elles dépeignent. La violence des sentiments, la brutalité des comportements, y compris chez la, comme on dit toujours, la tendre et douce Anne, mmh. où vous avez des scènes dans son petit récit, Agnès Gray, qui sont de destruction de nids d'oiseaux, etc., etc., contre laquelle, d'ailleurs, forcément, la narratrice qui est la préceptrice des enfants essaie de se gendarme, elle essaie de les contrôler. Ça. Mais on sent à chaque instant, et d'ailleurs les premiers lecteurs ont tout de suite remarqué, ils se demandaient pourquoi, même dans ces textes comme ceux d'Anne, dans The Tenant c'est la même chose, enfin La Locataire c'est la même chose, il y avait une part si belle faite à la violence, à la cruauté, à des sentiments inacceptables
pourquoi, alors,
chez les Victoriens.
Pour quelle raison ? Quelle est la source de cette obsession ? Qui fait tout le prix, d'ailleurs, de la littérature des Brontë.
Écoutez, je ne sais pas. Je pense qu'elles avaient des problèmes à régler avec elles-mêmes. À des degrés divers, elles se sentaient enfermées. Charlotte espérait désespérément voir autre chose, un monde plus vaste.
Sortir de la lande.
Émilie, elle, non. Elle avait son monde intérieur qui lui suffisait. La lande et son monde intérieur... Ça lui suffisait amplement. Elle n'avait pas besoin. D'ailleurs, dès qu'elle s'éloignait de Haworth, elle était souffrante.
Bien, nous allons creuser tout cela toute cette semaine. Dominique Jean, peut-être trouverons-nous l'origine de cette souffrance. Sans doute pas, mais peut-être l'approcherons-nous.
Ben, je vous le souhaite.
Merci beaucoup d'être venu nous parler de cette fratrie d'artistes qu'étaient les Brontë. Je rappelle que vous avez dirigé l'édition des textes des sœurs Brontë en Pléiade et que vous avez traduit Jane Eyre, roman, par ailleurs disponible en folio, et ça, et ce, depuis 2012. « Demain, dans la compagnie des auteurs, nous recevrons un duo de femmes, deux écrivaines, pour continuer de parler des Brontë. En première partie, Lydie Salvaire, qui a consacré une partie de son essai, Cette femme, à Émilie Brontë. Puis ensuite, Christine Jordis nous parlera notamment des paysages et de la maison familiale. Mais en attendant tout cela, c'est Jacques Bonafé qui nous fait découvrir le recueil de poèmes, L'algorithme éponyme du poète Babouillec.
Bonjour, nous sommes ensemble, posés lettre à lettre sur la table, algorithme. Comme un scrabble sur la couverture du livre, algorithme éponyme, comme ce qui est la solution de lui-même en lui-même. Algorithme éponyme et autres textes de Babouillec. Nous sommes soumis à l'invitation au voyage identitaire, tout en construisant nos rapports à nous-mêmes et à la vie. Écrire m'aide à me structurer socialement et mécaniquement. L'écriture jaillit par intempérance, goutte à goutte du fond poétique de l'ivresse des mots. Dans la folie de l'obéissance d'être en vie, j'accuse l'infinie gourmandise jubilatoire de mon cerveau de m'inonder du désir impalpable de jouer avec les lettres et raconter l'invisible qui vit en moi. Qui est cette Babouillec, Hélène Nicolas? Pourquoi Julie Bertuccelli, réalisant un film sur elle, dans la préparation d'un spectacle mis en scène par Pierre Meunier, a choisi ce titre déboussolant « Dernière nouvelle du cosmos » posée lettre à lettre sur l'affiche. Introduction du livre. Je suis Babouillec, très déclaré, sans parole. Seul, enfermé dans l'alcôve systémique, nourricière souterraine de la lassitude du silence, j'ai cassé les limites muettes et mon cerveau a décodé votre parole symbolique, l'écriture. J'ai écrit des textes lisibles, je crois, les frontières des osmoses entre les mots m'échappent toujours et encore. Le prisme éponyme tentaculaire taraudant mes neurones projette ou avale l'identifiable matière de mon cerveau. Schiste granitique, mon cerveau dimensionne ma grandeur dans le silence iconoclaste des largués sensoriels. Poète sans papier, sans origine littéraire, sans règles sociales, ma vie n'est pas enregistrée dans l'ordre d'une identifiable sensorialité mécanique. Dans la préface, Pierre Meunier dit « Je pensais mériter le nom d'éveillé quand la lecture de Babouillec me fit réaliser la profondeur de mon sommeil. » Comme si ces mots, doué du rare pouvoir d'alarmer, venait secouer l'inertie de nos lobes sédimentés où hibernent les questions essentielles que nous avons renoncé à affronter. Babouillec, plus loin. Je suis une enfant du ventre de ce monde où la poésie s'enterre vivante, asphyxiée par l'hégémonie culturelle. Je suis une enfant de ce sentier du monde en équilibre au-dessus des ravins, ligotée entre le plein et le vide. Je suis une enfant du ravin de ce monde, ployée sous les sentiers en déséquilibre entre le vide et le plein. Je suis une enfant en errance dans ce monde peuplé de certitudes, soumise à la servitude. Nous retrouvons demain Babouillec.
Merci Jacques Bonafé, à demain. Et dans quelques instants sur France Culture, vous avez rendez-vous avec la série musicale.